Et question ce matin sur la défiance des citoyens envers leurs élus, envers la politique en général. Les raisons de cette défiance, les raisons de la défiance, c'est le titre de votre dernier livre. Bonjour Luc Rouban.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur au CEVIPOF. Votre livre paraît aux presses de Sciences Po. On va peut-être commencer par définir ce qu'on appelle la défiance en politique. La défiance, vous le dites dans votre livre, hein, ce n'est pas l'indifférence. Comment est-ce que ça se manifeste, une défiance envers la politique ?
Alors, il faudrait déjà séparer la défiance de la méfiance. La méfiance, c'est la certitude, la quasi-certitude qu'on aura, si vous voulez, une forte probabilité d'être trompé, d'être dupé. La défiance, c'est plus soft. C'est, disons, une méfiance atténuée. C'est l'idée que on va s'engager avec prudence. Et donc, on va faire confiance avec prudence. Donc ça, tout ça, ça nous renvoie à la définition de la confiance, qui est finalement la capacité de s'engager pour l'avenir, de faire un pari sur l'avenir, sur le comportement des autres ou sur, leurs décisions ou leurs actions.
Vous dites aussi que cette défiance envers la politique, c'est une spécificité française au regard des voisins européens, c'est-à-dire ?
Ah, très fortement. Si vous voulez, on a mené de très nombreux travaux comparatifs, notamment dans le cadre du baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, avec les collègues que je salue d'ailleurs. Et si vous voulez, on voit bien quand on fait des comparaisons qu'en France, on a vraiment des niveaux de défiance ou de méfiance, peu importe, très élevés en ce qui concerne les institutions politiques, notamment nationales, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou d'autres pays comparables européens. Et si vous voulez, une défiance qui est généralisée, je dirais, à l'ensemble du monde politique aussi, vis-à-vis des syndicats, des partis, des réseaux sociaux, on parle toujours des réseaux sociaux, on nous dit toujours la politique aujourd'hui se fait avec les réseaux sociaux, mais pas du tout. Vous avez un niveau de confiance à peu près de 15% dans les réseaux sociaux, donc il y a une espèce de mise à distance. En revanche, des niveaux quand même de confiance, et c'est là aussi quand même il faut le souligner, assez important tout, en ce qui concerne tous les services publics, c'est-à-dire l'école, l'hôpital, même la police, malgré tous les problèmes et tous les débats qu'on a pu observer, si vous voulez, et en milieu politique, le seul niveau qui soit à peu près qui attire la confiance des électeurs, c'est le maire, et encore avec des problèmes.
Comment on la calcule, cette défiance ? On va en parler pendant 20 minutes. Est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent vraiment de la mesurer ?
Oui, si vous voulez, on s'appuie, nous, sur des enquêtes, évidemment, d'opinion, mais avec des batteries de questions assez complets. Donc, si vous voulez, on pose un certain nombre de questions concernant la capacité de confiance dans différents acteurs. Et on peut aussi corréler ces éléments avec d'autres questions plus sociologiques concernant, si vous voulez, les résultats ou l'activité politique en général. Mais c'est vrai que la confiance, ça reste toujours du domaine à la fois du subjectif et de l'objectif, c'est-à-dire c'est du subjectif qui se transforme en objectif.
Donc on dit qu'elle est très haute, cette défiance, mais on n'a pas un niveau de défiance à donner. On ne peut pas dire finalement l'évolution de la défiance aujourd'hui en France. Est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte que...
Si vous voulez, dans le temps, on peut comparer dans le temps les différentes enquêtes et on peut voir que, par exemple, si vous avez aujourd'hui, par exemple, 35% des gens en moyenne qui font confiance, plutôt confiance ou pas du tout, plutôt confiance ou tout à fait confiance dans leur député, il y a 10 ans, c'était peut-être 40-45%. Donc on a quand même des éléments d'analyse comparative qui permet de mesurer les flux relatifs, parce que c'est ça qui compte. En fait, en jargon, c'est ce qu'on appelle l'analyse en structure, c'est-à-dire en termes relatifs, en comparaison dans le temps.
Et donc ça a monté sérieusement à partir de quand ? À partir de quand la défiance est devenue très forte ?
Ça commence, si vous voulez, en fait, avec Giscard d'Estaing dans les années 70. On voit la confiance diminuer, les méfiances augmenter.
Avant Giscard ou après Giscard d'Estaing ?
Après Giscard, de manière très paradoxale.
74.
À partir du moment où on commence justement à parler avec le giscardisme de normalisation de la politique française et de moyennisation de la politique française.
Et à propos de comparaison de cette défiance, est-ce qu'on a vu par le passé autant d'exemples répétés de violence, parfois physique, envers les élus ?
Alors là, oui, vous touchez un point très important. Si vous voulez, les agressions contre les élus, y compris les maires, y compris les élus locaux, se sont multipliées récemment. Et ces éléments, évidemment, sont liés à un des ressorts fondamentaux de la méfiance ou de la défiance, c'est le problème de l'anomie. C'est-à-dire le fait que, et c'est ce que je montre dans l'ouvrage...
De l'anomie.
C'est-à-dire la désorganisation,
C'est-à-dire le fait de perdre ses repères sociaux et de ne se sentir appartenir à aucune communauté, quelle qu'elle soit nationale, linguistique, régionale, religieuse, peu importe. Il faut reconnaître, et là c'est quand même très important et très inquiétant, c'est que la moitié des enquêtés français se situent dans les anomiques. Donc c'est-à-dire des gens qui se considèrent un peu comme des électrons libres et se sentent appartenir à rien. Or, la violence, et ça je rejoins évidemment les thèses bien classiques d'Émile Durkheim sur le suicide, la violence, que ce soit contre soi-même ou contre les autres, trouve à se nourrir dans l'anomie justement. Et ce problème, donc, d'anomie, se nourrit la défiance, nourrit la violence. Or, ce qui est très intéressant et très nouveau, c'est que cette violence, maintenant, est interindividuelle. C'est-à-dire que c'est plus une violence militante, une violence partisane, comme celle qu'on a pu observer pendant très longtemps et toujours dans le milieu politique, par exemple la violence anarchiste ou la violence des Brigades Rouges en Italie, enfin peu importe.
Et là, aujourd'hui, la violence n'est pas estampillée par un parti forcément.
Non, c'est une violence de l'intérêt individuel. Pourquoi ? Parce que le représentant n'est plus un représentant, il est considéré finalement comme un individu privé, comme un autre. Et là, on touche un autre point, c'est la confusion entre public et privé, ou plutôt l'indifférenciation entre les deux univers, et donc le manque de respect vis-à-vis des institutions.
Mais on a l'impression qu'on s'en prend à un élu, enfin que les personnes qui s'en prennent à un élu, le font parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment bien représentés par lui. C'est ça le moteur essentiel ou pas ?
C'est parce qu'ils peuvent aussi se considérer comme des consommateurs. Quand vous interrogez les maires, notamment dans les petites communes, ils sont très nombreux à vous dire, le grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos administrés se considèrent comme des consommateurs, ils ont développé une culture consumériste, qui fait que le rapport aux politiques n'est plus un rapport à l'intérêt général, mais un rapport à l'intérêt particulier. Autrement dit, je paye des impôts, c'est pas pour l'intérêt général, c'est que pour moi, c'est afin que moi je sois servi en priorité, quel que soit les intérêts généraux, quel que soit l'intérêt des autres. Et donc, la notion même de représentant disparaît. Et très curieusement, c'est ce qu'on observait d'ailleurs au sein du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire la notion de représentation disparaît, et les Gilets jaunes ne voulaient même pas entendre parler de la notion de représentant.
Alors, il y a la question effectivement de la violence à l'égard des élus, il y a aussi l'abstention qui permet de mesurer cette défiance. Le taux d'abstention qui est monté très haut lors de toutes les dernières élections, municipales, départementales, régionales, une partie des Français ne va plus voter, il y a un rejet, il y a une rupture. Est-ce que c'est vraiment de la défiance ou est-ce que c'est un problème, j'ai envie de dire, de compétence avec des candidats qui ne sont pas jugés à la hauteur des enjeux, à la hauteur de la fonction ?
Non, c'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème, je dirais, parce que dans le fond, ça c'est aussi l'ambiguïté des critiques actuelles, c'est que d'un côté, on reproche à la classe politique, au personnel politique de s'être professionnalisé. De l'autre côté, on n'aime pas beaucoup ceux qui n'ont pas de compétences et qui ne sont pas professionnels et qui ne savent pas manier ni le droit, ni l'économie, et qui ne connaissent pas non plus la vie politique. Non, je pense que c'est plutôt à la fois un discrédit général de la notion de représentation avec un appel à la démocratie directe, au référendum d'initiative citoyenne, etc. Ou tout simplement au retrait de la vie politique. Et en même temps, si vous voulez, je pense qu'il y a derrière cette abstention le gros problème actuel qui est finalement le déphasage entre l'offre politique et la demande. C'est-à-dire ce qu'offrent les partis, les candidats, et les attentes réelles des électeurs, qui sont souvent en décalage. Et là, on a un vrai problème en France parce que on reste toujours, si vous voulez, au sein de la demande, dans un clivage gauche-droite qui est fort, alors qu'au niveau de l'offre, les choses sont devenues beaucoup plus confuses.
Alors, c'est-à-dire préciser ça, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'attendent les Français et qu'est-ce que leur offrent les politiques ?
Globalement, ce que les Français, ils attendent aujourd'hui, disons, pour le dire simplement, plus d'autorité ou d'autoritarisme en matière culturelle, c'est-à-dire essentiellement dans le domaine pénal et dans le domaine de l'immigration. Et je dirais, un État-providence équilibré, c'est-à-dire un libéralisme modéré, économique modéré. C'est-à-dire, pour le dire simplement, peu de libéralisme économique et peu de libéralisme culturel. Alors que la droite offre beaucoup de libéralisme économique et peu de libéralisme culturel, et que la gauche, c'est l'inverse. Donc vous voyez, il y a un vrai problème de ce côté-là.
À propos de l'abstention, pour continuer, des abstentionnistes pensent que le vote est devenu inutile, que le bulletin dans l'urne, finalement, ne change pas leur réalité. C'est pour ça qu'ils ne se déplacent plus. Ils n'ont pas forcément tort.
Oui, non, mais là, vous touchez un point très important, si vous voulez, c'est la montée en force d'une attente, je dirais, d'efficacité, de transformation de la vie quotidienne, des pratiques sociales, et une attente qui est évidemment souvent déçue. Alors, évidemment, on arrive très, très rapidement à un clivage entre ceux qui défendent la démocratie représentative, les institutions, la complexité du système représentatif, et de l'autre, des personnes qui effectivement rejettent la notion de représentation, préfèrent l'action directe. Alors ça peut être de gauche ou de droite, hein, donc ça nourrit ce qu'on appelle le populisme, mais c'est pas vraiment du populisme en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et si vous voulez, ça rejoint un autre clivage qui est celui d'un côté, et c'est là où ça devient dangereux, de la République qui repose quand même sur une certaine rationalité, une certaine philosophie positiviste, et de l'autre, plutôt une politique des affects, de l'émotion, de la colère, de la réaction immédiate.
La défiance, jusqu'à pourquoi pas une menace peut-être pour la démocratie. La démocratie, c'est d'abord le vote, rappelait Emmanuel Macron. La démocratie particulièrement menacée en ce moment ?
Ah, je pense, oui. Vous savez, quand on a fait les dernières vagues de l'enquête du baromètre de la confiance politique, j'avais introduit ce que j'avais appelé un module chinois. C'est-à-dire, en fait, pour le dire simplement,
Qu'est-ce que vous appelez un module chinois ?
Eh bien, c'était simplement mesurer si finalement un régime de type chinois serait pas tout à fait intéressant pour un certain nombre de personnes. Alors, d'une certaine manière.
Ça veut dire autoritaire, si je vous comprends
autoritaire,
bien.
Autoritaire.
C'est une provocation de votre part.
Bien sûr, bien évidemment, sinon c'est pas drôle.
Je le précise pour les auditeurs.
Ouais, bien sûr. Et donc, on avait posé des questions. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez la démocratie ou le fait de vous enrichir plus facilement ? Il y en a 37% qui disent « bah oui, je préférais m'enrichir plus facilement que la démocratie ». Et est-ce que vous préférez la démocratie ou l'égalité sociale et la justice sociale ? Et il y a 55% des gens, à peu près, je dis ça de mémoire, qui vous disent « bah oui, je préfère la justice sociale et l'égalité à la démocratie ». Au total, ça vous fait que, bon, je rentre pas dans les calculs, hein, mais au total, ça vous fait qu'il y a qu'un tiers des enquêtés qui soutiennent mordicus la démocratie. Les autres, ils sont beaucoup plus mitigés.
La démocratie qui serait donc devenue aujourd'hui une vieille valeur, bourgeoise même peut-être ?
Une valeur bourgeoise, oui.
Mais de gens diplômés en fait.
Oui, et de vieux diplômés, oui. De seniors diplômés, voilà. Un petit peu, c'est un petit peu ça. Bon, là,
mais pour poursuivre, est-ce que dans les raisons de cette défiance, est-ce qu'elle n'est pas imputable à la verticalité, malgré tout, de plus en plus forte ? Parce que donc vous dites qu'il y a une recherche de cette autorité, mais est-ce que la verticalité du pouvoir sous la Ve République n'est pas un problème et ne pose pas problème justement aux Français ?
Mais c'est toute l'ambiguïté, parce que si vous voulez, d'un autre côté, la verticalité, c'est aussi, d'une certaine manière, alors ça dépend, oui, effectivement, c'est là aussi l'assurance d'une action qui peut être plus rapide et plus efficace, mais vous avez aussi une théorie qui consiste à dire, ou une pratique qui consiste à dire, ben voilà, on préfère une efficacité par la démocratie directe et par l'horizontalité. Mais en réalité, si vous voulez, je pense que c'est pas tellement le problème des institutions qui se pose, c'est vraiment le problème de la démocratie, c'est-à-dire qu'il s'agit pas tellement de modifier les institutions. Parce que dans le fond, même quand on fait de la démocratie participative, même quand on met en place des référendums, on s'aperçoit que les niveaux de participation sont faibles et que vous attirez que des gens qui sont déjà socialisés sur le terrain politique.
Donc il n'y a pas à changer les institutions, il n'y a pas à changer les outils démocratiques,
tout fonctionne. Non, c'est pas là le problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas, à mon avis, le problème n'est pas dans les institutions, il est dans le fonctionnement même de la société.
Donc peuple élite, c'est quoi ?
Oui, ben voilà, ça c'est un des grands problèmes, si vous voulez. Grosso modo, c'est, et si vous voulez, la variable première d'explication de la défiance, quelles que soient les autres variables, c'est le fait de voir son mérite reconnu ou pas. Ça, c'est fondamental. Donc on renvoie, si vous voulez, le problème de la défiance politique, il s'ancre profondément dans le fonctionnement de la société française.
Donc si je vous souviens, les Français ne se sentent pas suffisamment considérés, donc ils n'ont plus envie d'aller voter.
Oui, parce que dans le fond, ils estiment que c'est légitimer un système qui, justement, ne les légitime pas. C'est-à-dire, ils ne sont pas reconnus, ils ne reconnaissent plus le système, donc une forme de divorce. Alors après, on peut justement critiquer le fait d'imputer ce phénomène uniquement à la classe politique, parce qu'il est aussi lié au comportement des Français et des citoyens. Et c'est puis, un petit peu plus compliqué.
Contre cette défiance, vous l'écrivez dans votre livre, il faut encore de l'estime réciproque, l'estime de l'autre, ça se mérite, écrivez-vous dans ce livre. Quand un chef de l'État qui va probablement se déclarer dit vouloir emmerder ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, il fédère certes ceux qui sont d'accord avec lui, mais quel impact pour ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui sont en désaccord ? Il y a du mépris et de la défiance, ça développe la défiance ça ?
Alors si vous voulez, ça c'est un petit peu tout le paradoxe du macronisme, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a paradoxalement d'un côté très bien compris qu'il y avait un problème de mobilité sociale en France, justement de méritocratie. Et de l'autre côté, je dirais, c'est un petit peu son habitus, pour parler comme Bourdieu, c'est dans le fond le fait de toujours rappeler qu'il y a quand même ceux d'en haut et ceux d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu ce côté observateur chez lui, prince philosophe, qui regarde plutôt que qu'un président élu. Et donc effectivement, ça crée des tensions parce que ça donne l'impression d'aggraver la fracture, si vous voulez, et de souligner effectivement ce mépris social.
La question qu'on se pose aussi, et j'avance, c'est quel est l'impact de la crise sanitaire, celle qu'on vit depuis 2 ans, dans cette défiance dont on parle ce matin ?
Eh bien écoutez, c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que quand on fait des comparaisons avec les autres pays européens, on s'aperçoit qu'on a vraiment une différence en France, c'est-à-dire que dans le fond, toute l'évaluation de la politique sanitaire, de la gestion de la politique sanitaire par le gouvernement, par le président de la République, etc., est conditionné justement en France par ce malaise démocratique qu'on ne trouve pas au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d'autres pays où, dans le fond, les résultats sont guère meilleurs et même parfois bien pires qu'en France sur le terrain sanitaire ou hospitalier, mais où le débat sur la politique sanitaire est resté un débat de politique publique, c'est-à-dire un débat partagé par la majorité et l'opposition.
C'est-à-dire qu'en France, vous estimez que ce sont les scientifiques qui ont pris le pouvoir sur le politique ?
Non, pas du tout.
On a cristallisé les critiques.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la crise sanitaire s'est politisée et c'est un prolongement de la crise politique sur un autre terrain, en quelque sorte. Et ceux qui n'avaient pas confiance dans le gouvernement, n'avaient pas confiance dans les institutions, n'ont pas confiance dans les scientifiques. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que plus vous vous rapprochez du pouvoir, je dirais du roi soleil, et plus le niveau de méfiance augmente. C'est-à-dire que le médecin, on lui fait confiance. L'expert, on lui fait déjà beaucoup moins confiance, mais alors le porte-parole gouvernemental qui parle de politique sanitaire, on lui fait plus confiance du tout.
Alors parlons rapidement des solutions à cette crise de la défiance. Vous dites, pas besoin de faire de grandes réformes institutionnelles ou de bouleverser notre démocratie. Dans votre livre, en fait, j'ai été un peu surprise, vous proposez une formation civique qu'il faudrait accentuer dès la scolarité. J'ai envie de dire, c'est un peu facile de dire la démocratie fonctionne pas, c'est les Français qui n'y connaissent rien en démocratie ?
En grande partie, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai problème de formation civique, de connaissance des institutions. Ça, c'est un premier... Je dirais c'est la partie la plus facile. La partie la plus complexe, c'est effectivement de travailler sur la méritocratie, parce qu'en France, si vous voulez, qui vit sur une mythologie républicaine égalitaire, le fait de se sentir non reconnu dans son travail, dans son mérite et dans ses efforts, a des effets beaucoup plus délétères que dans d'autres pays. Et donc, c'est là où on a un vrai problème. Et là, ça implique effectivement de repenser complètement la mobilité sociale, professionnelle.
Oui, mais ça, c'est pas l'apprentissage de la démocratie.
Ah non, ça, c'est autre chose, mais il faut faire les deux.
Repenser aussi la décentralisation, mal conçue, mal pensée, mal déployée.
Certainement, parce que l'une des grandes leçons de la crise sanitaire, ça a été la confusion institutionnelle et le manque de clarté et le besoin certainement de mieux redéfinir les compétences des uns et des autres.
Une dernière question assez pessimiste, j'en conviens. Jusqu'où est-ce que elle peut aller, cette décomposition du corps politique qu'on a l'impression d'observer quand même ?
C'est-à-dire qu'il y a quand même des garde-fous, c'est-à-dire qu'il y a quand même, si vous voulez, un système constitutionnel, heureusement, un système judiciaire, heureusement, des services publics, heureusement, mais c'est vrai que on risque surtout d'avoir à nouveau une élection présidentielle par défaut, et donc une instabilité qui va se traduire par des conflits sociaux ou par d'autres conflits.
Eh bien, on lira tout cela dans votre dernier livre, donc les raisons de la défiance. Merci Luc Rouban d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Le livre paraît aux presses de Sciences Po. Merci et bonne journée.